c'est la rentrée du frigo tous les 15 jours maintenant, la semaine prochaine, première émission de la bande-son de nos révoltes. Et voilà, le frigo en alternance avec cette toute nouvelle émission. Et voilà, on va commencer ce soir avec une dinguerie, ça date du milieu des années 90. Il s'agit de Policy of Three, trio américain, noise, rock, punk. Et voilà, on va écouter un extrait de l'album qui est sorti en 1993. Et on écoute tout de suite le morceau qui s'appelle 1%. We'll be right back. Et on commence cette petite heure d'impro sonore avec une pièce qu'on entend déjà depuis deux petites minutes. Il s'agit de Louis Dufort, il s'appelle Matériaux. Ça a été joué dans le cadre d'un festival à Montréal, musique contemporaine, en 2006. On démarre avec ça et puis ça sera couplé avec Arte Radio, reportage sur les appelés de la guerre d'Algérie. La lumière du frigo, impro, sonore.
C'était pas une guerre pour eux, c'était du maintien de l'ordre. Et puis, dans ces bâtiments, ils ont donné.
Très vite, j'ai compris que les secrets de famille, les souffrances, les colères se transmettent aux enfants de génération en génération. Le silence et ses nœuds aussi.
Tous ceux qui ont fait la guerre d'Algérie sont restés muets pendant 50 ans. C'était comme ça. On sentait qu'il valait mieux de pas en parler.
En France, aujourd'hui encore, près d'un Français sur trois a un père, un oncle, un ami qui a fait la guerre d'Algérie.
On nous a volé 20 ans et 28 mois de notre jeunesse. Tu sais pas pourquoi t'es là.
Et puis j'ai eu la chance de rencontrer ces anciens appelés en Algérie. Ils ont entre 80 et 88 ans. Et eux ont décidé de parler, de se réparer et de nous réparer.
On a été marqués par lui, par tout ce qu'on a pu voir, par tout ce qu'on a pu entendre, par tout ce qui nous a été imposé. Quand je suis rentré en France, la moindre porte qui claquait, c'était un sursaut effrayant, quoi.
Parmi eux, un poète chanteur, un ton instituteur et salarié d'EDF. Il s'appelle Georges Garrier.
G-A-R-I-E, accent aigu. Pas oublier l'accent aigu. Je suis né en plein cœur des Pyrénées, un des derniers villages avant la frontière, en Ariège. Donc après le bac, j'ai eu une idée, je ne sais pas si elle est heureuse, malheureuse, enfin originale, c'est que étant pyrénéen, j'ai eu envie d'aller en Algérie, ayant appris que l'Académie d'Alger recrutait des métropolitains bacheliers pour les recevoir à l'école normale d'Alger, et ensuite pour les expédier comme instituteurs, fonctionnaires, aux quatre coins de l'Algérie. Donc, j'ai été nommé à Guerrara, paumé, l'oasis, grande oasis, très sympa, mais paumé. Et à l'oasis, et le sable autour. Et moi, c'est ce que je voulais. On m'a donné comme première mission d'ouvrir une école. Or, le drame, on commence à ne plus rigoler, c'est que dans la journée, nous, on obligeait les parents à lâcher leurs gamins pour qu'ils viennent à l'école. Et la nuit, le FLN disait, attention, si vous envoyez vos gamins à l'école, il vous arrivera des histoires. On voit déjà le drame pour ces familles-là qui sont pris entre le marteau et l'enclume. Hein. Faut se mettre à la place des parents. Pour l'époque, je ne m'y mettais pas. Hein. Comme ça. On ne se rend pas compte qu'on est en train de changer de nature. On passe de l'homme raisonnable qui fait fonctionner sa tête à l'homme primitif qui fait fonctionner ses instincts. C'est ça, c'est cette transformation que produit la guerre, du moins dans mon expérience. Mon début, il était pas enthousiasmant, mais enfin, je l'acceptais assez facilement, quoi. Créer une école pour emmener les gamins à l'école sans leur apprendre quelque chose. Après tout, j'étais pas tellement loin de ma formation. Mais ça n'a pas duré. Ça s'est vite transformé. Très rapidement, j'ai été pris dans des embuscades trois ou quatre fois. Et là, j'ai compris ce que c'était. Parce que quand on commence à entendre crépiter les balles, qu'on ne sait pas d'où ça vient, alors, officier ou pas officier, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Se planquer devant. Hein. La théorie, c'est une chose, mais la réalité, c'est du tout. compagnie était en queue d'opération, donc vers 4 heures de l'après-midi, là, tout était terminé, le commandement comptait les morts. Et moi, je descendais tranquille, fier d'en avoir terminé. Et d'un seul coup, mon adjoint de compagnie, derrière moi, il me tire une rafale de mitraillette à 10 mètres devant les pieds, là. Et je comprends pas, j'ai dit, mais on imagine, lui, qu'est-ce qui vous arrive, ça, pas? Et il me dit, mon lieutenant, mais vous n'avez pas entendu? Mais entendu quoi? Vous n'avez pas entendu le clac-clac? À 10 mètres, il y avait un félaga qui était dans l'herbe, là, dans les roseaux, qui venait de me lâcher deux coups de fusil de chasse, qui n'était pas parti parce que sa musette, qui était pleine de balles, et comme il avait dû ramper, peut-être il avait été blessé, je sais pas, sa musette était trempe et les deux cartouches étaient mouillées. Et sur le coup, bon, on fait le flambard, hein, surtout quand on est responsable. Mais le soir, j'avais les jambes qui tremblaient encore. J'ai commis quelques poèmes, beaucoup plus tard, hein. Et dans un de ces poèmes, je raconte ce qui s'est passé le 2 janvier 1957. Ce jour du 2 janvier, m'ayant à sa merci, la Camarde, invitée, m'accorde le sursis. Elle avait pris les traits d'un homme du Djebel, un Kabyle encore jeune, mais néanmoins mortel. Son vieux fusil de chasse, armé de chevrotines, était prêt à tirer, plaqué sous sa poitrine. Ces circonstances-là m'ont valu d'être en vie. Ce ne fut pas le cas du chasseur, qui se vit le temps de la rafale d'une arme automatique, converti d'un seul coup en martyr authentique.
Georges m'a présenté son ami Gilles Champin, retraité paysan. Gilles a été appelé en Algérie en 1957. Il avait 20 ans. Et comme ses camarades, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait y faire. Il y est resté 28 mois.
Je suis débarqué en Algérie, je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas. Je ne savais même pas pourquoi les Algériens s'étaient révoltés. On n'avait plus d'informations. C'était une guerre de pacification qu'on nous disait. Et quand je suis... Mes 3 premiers jours, j'ai été confronté tout de suite aux arrestations, aux interrogatoires et aux exécutions sommaires. Alors là, moi, j'ai pu participer à ces interrogatoires, mais accidentellement. On a besoin personnel pour une fois tourner la manivelle, la magnéto. Magnéto, ce sont des courants électriques qu'on fait passer dans le corps des hommes. Et c'est un supplice énorme, c'est terrible. Et tellement matraqué après l'interrogatoire, on avait peu de renseignements. Et les renseignements qu'ils nous donnaient en fin de torture, ils étaient faux, quoi. Ils étaient très solidaires de leur frère. Ils n'allaient pas les dénoncer, quoi, si. Et tellement handicapés, tellement matraqués, les prisonniers, on les emmenait pas à l'hôpital, mais on les emmenait carrément, on les faisait disparaître. La guerre d'Algérie, elle est innommable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom. C'est une guerre injuste, c'était complètement une guerre qu'on ne pouvait pas faire. Et la France a perdu je ne sais pas comment dire, mais c'est liberté, égalité, fraternité, ça n'a pas existé. Et puis l'armée a perdu son honneur, parce que ce qu'on nous a demandé de faire. Tous les militaires ne sont pas des assassins, c'est une larme. Mais quand même, il y a des gens qui en ont sur la conscience.
Stanislas Hutin a 22 ans quand il est appelé en Algérie. Le jeune Stanislas était l'un des rares à avoir une conscience politique. À table, chez lui, on parlait de guerre coloniale et de ses injustices. Il a servi 26 mois sous les drapeaux.
J'ai été d'abord séminariste pendant plusieurs années. Je les ai quittés avant mon ordination, je n'ai pas été ordonné prêtre. Et ensuite, en Sorbonne, j'ai refait de l'ethnologie et de la sociologie. Après mon service militaire de 13 mois à Madagascar, au cours de ma permission libérable en France, j'ai appris que j'étais maintenu sous les drapeaux. C'était l'expression. Et envoyé dans une unité d'infanterie coloniale, avec une hiérarchie qui revenait d'Indochine, vaincu et qui espérait bien reprendre leur revanche sur l'Algérie, sur ces félagas, ces va-nu-pieds qui ne pouvaient en aucun cas rivaliser avec les Vietnamiens qui venaient de vaincre la France. Donc une armée qui était absolument décidée à en découdre et convaincue qu'il ne ferait qu'une bouchée de ces va-nu-pieds. C'était la guerre. C'était la guerre et son absurdité et son inutilité. Parce que qu'est-ce qu'on a gagné à ça? Rien. Les Algériens, eux, ont gagné leur liberté. Donc ça n'a pas été inutile pour eux, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? Donc voilà. Il y avait des prisonniers qui étaient enfermés. On appelait ça les prisonniers en magasin, pour te dire la terminologie locale. Qui étaient soumis à la torture, par la faim, par la soif, par le dénuement, parce qu'on les maintenait nus, souvent. Ça a été le gars de ce gamin de 14 ans. Il était petit berger, il gardait ses vaches, et puis tout d'un coup, il voit sortir des bois, des hommes en armes, casqués, il prend peur, il se sauve. On lui court après, on le ramène, et on l'accuse d'avoir voulu aller avertir des félagas. On le ramène au camp, on le met dans la guitoune. La nuit, j'entends des hurlements pas possibles. J'ai cru que c'était les chacals qui étaient rentrés dans le camp. Je suis sorti de ma propre guitoune pour découvrir qu'en fait, on était en train de passer à la magnéto, de torturer, dans la tente à côté. Je ne pouvais pas imaginer que ce soit le gosse. Comme il y avait un vieux qui était là, je pensais que c'était le vieux. Et le lendemain, j'ai découvert que c'était le gosse qui avait été passé à la magnéto. Tout ça, c'était absolument révoltant. Et d'ailleurs, je n'ai pas été le seul à aller leur donner à manger, à leur donner à boire en douce. Si bien qu'un jour, quand même, mes camarades revenant du mess des parachutistes m'ont dit « Hutin, surtout n'accepte jamais d'aller en embuscade avec les paras parce qu'ils ont décidé de descendre. » Donc moi, c'était l'ambiance, c'était l'atmosphère.
Rémi Serre, c'est le chef de bande. C'est grâce à lui que tous ces anciens appelés se sont rencontrés. Agriculteur du Tarn de père en fils, il a quitté pour la première fois sa terre natale en 1958 pour l'Algérie. Le jeune Rémi prend le bateau sur une mer déchaînée et débarque à Oran. On l'envoie dans les Aurès, au cœur de la guerre.
J'ai parti à l'âge de 20 ans, en 58. Et je suis revenu en 61, voilà, enfin 28 mois de guerre. Les Arabes, c'était quand même, à l'époque, pour nous garder, c'était des sous-hommes. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne peux pas torturer quelqu'un avant lui, puis tu le prends pour un semblable. Il faut que tu aies un mépris pour lui, que tu le traites avec. Tu penses que c'est un moindre. Et non, tu ne peux pas. Je vois pas comment, là, je vais te torturer et te faire souffrir alors que je te prends pour une semblable. Quand un capitaine tabassait un gars qui était attaché, il fallait leur rendre courage de secouer, choper ce capitaine à quatre et lui dire arrête, sinon on va t'en foutre une, quoi. Et plein de choses, il aurait fallu seulement. C'était un péril du tribunal militaire, tout ça, c'était un péril. À l'époque, il y avait la peine de mort. Et l'action qu'il fallait faire, elle était très limitée, puis était très vite repérée par les valets, qui changent de poste, qui t'envoient dans le commandant où tu risques d'être tué. Il y avait diverses punitions.
Sur les 8 années de guerre, très peu ont déserté le champ de bataille. 900, disaient les rapports militaires. Sous les drapeaux, à côté des appelés, se tenaient des Algériens ralliés à l'armée française, souvent par la force ou par la faim. On les appelait les harkis.
Quand je suis parti en février 60, on a pété le départ au bataillon de compagnie. Et parmi ces groupes d'amitié, il y avait un ex-prisonnier qui était devenu interprète, qui avait rentré dans le jeu. C'était un harkis, rallié à l'armée française, devenu interprète. Et quand on s'est quitté, il est venu, il m'a serré les deux mains, il m'a dit « Gilles, tu pars en France, trouve une maison pour moi, ma femme et mes enfants, si je reste là, ils vont couper le cou. » Il dit « J'ai trahi mon pays. » Il s'appelait Ben Oudoua. Et finalement, on s'est quitté. J'ai rien fait pour lui parce que j'avais pas de moyens. Et j'espère qu'il a pu regagner la France, mais sans quoi, c'était un traître. Quoi, c'était... Mais tous ces harkis, là, ils n'avaient pas le choix. Nous, la France, on les a abandonnés.
Sur les 250 000 harkis, moins de 100 000 ont pu regagner la France. Les autres ont été exécutés. Avoir abandonné leurs frères d'armes, c'est l'une des grandes douleurs de Rémi, Georges et les autres. En 2004, ils fondent l'association des anciens appelés en Algérie contre la guerre, la 4ACG.
Ils se sont retrouvés comme les mousquetaires, quatre anciens appelés qui avaient fait serment de se dresser un jour unis contre la guerre, décidés à transmettre leur vécu de ce temps.
Tout a commencé quand Rémi reçoit sa pension d'ancien combattant. Et s'il pouvait en faire quelque chose de bien de cet argent, quelque chose qui réparerait.
C'est-à-dire qu'à 65 ans, on avait droit à la retraite du combattant. J'ai dit, je vais quand même pas accepter cet argent pour des conneries que j'ai fait en Algérie.
Tous les quatre, Rémi, Armand, Michel et Georges, percevant leur retraite d'anciens combattants, trouvant qu'elle leur restait au travers de la gorge, la verse maintenant pour le monde souffrant.
Nous donnons cet argent des Algériennes œuvrant pour la paix.
La mayonnaise a pris, on a vu apparaître, avec quelques soutiens, une association, rappelée, amis, vont faire connaître un peu leurs souvenirs, mais aussi ce qu'ils font.
Je suis heureux de donner mes 700 euros. L'association, c'est marrant. Heureux, hein? Heureux. Ça diminue mon portefeuille, et ça me grandit, nom de Dieu.
Rejetant les rancœurs et les plaies du passé, ils tendent au Maghreb la main de l'amitié, pour que de ces flots bleus, la Méditerranée baigne nos deux pays dans la fraternité.
Nous, on a une valeur considérable à passer. C'est l'acte de résistance post-guerre que l'on a émis. Le refus de toucher cette pension de guerre, cet argent qu'on considère l'argent, du salaire de l'argent, c'est historique. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de France.
On a proposé au membre de l'association de faire un voyage en Algérie. Alors, ma femme était pertinente, mais on s'inscrit en 2013 à partir en Algérie.
On est parti par avion Alger, j'ai loué une voiture. Et on est descendu, Ruisseau des Serges, Djelfa, La Guane et Guérara. et on est arrivé à Guérin. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à mon fils, là, ça, la fenêtre qui est là-haut, c'était une salle de classe. À côté de nous, un petit jeune.
La suite, c'est sur Arte Radio, les appeler. Et pour le moment, c'est la lumière du frigo. Comme ça, sans prévenir, elles approchent, elles arrivent, c'est les archives. Et maintenant,
archives, et maintenant,
la lumière du frigo,
c'est les archives, et maintenant, c'est les archives.
Et c'est la lumière du frigo, c'est les archives.
Archives.
La lumière du frigo continue avec les archives. Le moment d'ouvrir.
Le moment d'ouvrir la porte du frigo.
La porte du frigo. De rafraîchir l'atmosphère.
Et d'écouter des extraits d'émissions.
D'écouter des extraits d'émissions.
Mars 2011.
Janvier 2014.
Septembre 2010.
Avril
2017.
Mars 2011.
Janvier 2014.
Juin 2017.
Ce soir, on va commencer avec des archives qui datent un peu, qu'ont 10 ans, un petit peu plus, ça date de mai 2008. Ça va démarrer avec This Hit, merveilleux groupe précurseur anglais qui faisait déjà de l'électronique et de la musique barrée, sans ordinateur. Et ça va être couplé avec Philip Jack, et puis il y aura sûrement du théâtre et quelques boucles. La lumière du frigo. Archive.
Direct.
C'est bon. La lumière du frigo.
Retour au direct. Retour au direct.
C'est la fin des archives.
C'est la fin des archives. C'est la fin des archives. C'est la fin des archives.
La lumière du frigo, édition
589.
Édition 637 ce soir. 637. D'impro pour ce soir. On va commencer avec un extrait d'un disque d'Andrea Belfi qui s'appelle Or. Andrea Belfi, un artiste que je découvre et c'est drôlement bien. On écoute une pièce qui s'appelle Cycline et puis on va essayer de coupler ça avec le feuilleton véridique et sociétaire des Pentes de la Croix-Rousse, un disque archéophonique de la fréquence éphémère. La lumière du frigo, édition 637.
glorieux citoyens du quartier que le feuilleton véridique et sociétaire des bandes de la Croix-Rousse arrive bientôt.
Alors en fait, avant l'arrivée des Romains, nous étions ici, au confluent des deux fleuves, à la limite entre le monde du sud, qui était déjà occupé par les Romains depuis 120 avant Jésus-Christ, et le monde des Gaulois, au nord, qui était organisé en 60 peuples. 60 peuples tous indépendants.
Vos témoignages sont sollicités pour construire chaque épisode savant et populaire relatant les différentes périodes emblématiques du quartier, de la construction de l'amphithéâtre des Trois Gaules à aujourd'hui.
Cette vie n'est pas la parole, dormi devas paroli. Qui on mi povas diri, la signora qui préparas la mangiagion, petas deni que ni iru.
Nicolas, je crois que nous sommes dans une taverne.
Taverne gauloise, et on va voir un petit peu si on peut se faire comprendre.
Luc de Doom.
Pardonnez-nous.
Luc de Doom.
La teatro de la tri gauloi, la quartalo de la rufa cruzzo, la déclivoi.
Oui.
Les pentes, c'est déclivoi.
Donc c'est un peu la langue qui se parlait ici dans les pentes à l'époque de la construction de l'amphithéâtre des Trois Gaules.
Non.
Ah, pas du tout. Ah, vous n'êtes pas des descendants directs de Blandine,
de
Marc Aurel, d'Auguste, de l'empereur Auguste.
C'est de Zamenhof, le docteur Zamenhof.
1859, il est né.
Oula, on est dans un centre crypto-espérantiste.
Voilà.
Cototo, c'est espéranto.
Ah, il savait dire,
etc.
Le village avait un village gaulois, Condat, qui signifie confluent. Ça veut dire que le confluent était par là, au bas de la colline. Mais en fait, il n'y avait qu'une ville qui était, pour l'essentiel, la colline de Fourvière, et la presqu'île, c'était un lieu économique de hangars et d'entrepôts.
Mais on voit qu'il y a deux villes différentes.
Non.
Ça, c'est quoi?
C'est un petit village gaulois, Condat. Hein? C'était une annexe politico-religieuse. C'était là où se rassemblaient les représentants des nations gauloises, une fois par an. Entre autres pour célébrer l'empereur. Ils ont laissé deux principales traces, l'amphithéâtre et l'hôtel des Trois Gaules qu'on cherche toujours. Et dont, paraît-il, les deux grandes colonnes ont servi à faire les quatre colonnes en les coupant en deux du cœur de l'église des Nèpes.
Archéophones, reliés par de grosses ficelles à une table de mixage claudienne, les speakers de la fréquence éphémère s'adressent à chaque Croix-Roussien et à chaque Croix-Roussienne.
Faut faire vite parce que c'est vrai que la plupart des canuts et l'histoire de l'Union va se perdre maintenant. Ah, je trouve ça génial, il faut faire très vite.
Mais alors par contre, on a du mal à trouver des gens qui ont plus de 1500 ans.
Et qui ont connu Auguste, c'est génial. Moi, je l'ai connu très très bien, hein, mais pas directement. Voilà, je connais très bien sa femme, ses enfants, mais pas sa fille, puisqu'il n'y en a eu qu'une, ses petits-fils. Mais arriver à retrouver Auguste sur la colline de la Croix-Rousse, c'est pas facile. Enfin, on retrouve Claude quand même, avec les termes de Claudienne, qui est son petit-fils.
Et lui et Claude, ça s'est toujours bien passé entre Claude et vous, c'est toujours été sympa. Comme...
Voilà, tout le Lyonnais quand même. Mais retrouver Claude, ben, je ne sais pas, moi, c'est difficile de faire des fouilles à la Croix-Rousse maintenant, c'est quand même bien, bien construit. Hein.
Et c'est
donc c'est un peu le problème pour retrouver l'histoire par les fouilles, mais par les textes, il faut interviewer les gens, oui. Mais Claude, effectivement, c'est vraiment de Lyon ici, mais pas eu de Caracalla aussi, qui est né à Lyon. Quand son père était gouverneur, c'est plus sévère. Et c'est lui qui a donné la citoyenneté à tous les habitants d'Empire. Donc en fait, Claude a essayé, d'autres l'ont fait. Mais par contre, qu'est-ce qui va rester maintenant? Pas grand-chose.
Les studios de l'hôtel fédéral des Trois Gaules se trouvent sur le flanc de la colline de la Croix-Rousse, mais aujourd'hui a été détruit complètement. Grâce à des textes, à sa représentation sur des monnaies et à l'archéophone, on peut reconstituer la partie principale, l'hôtel des Gaules, ainsi que le géographe Strabon le décrit.
C'est là qu'on voit ce temple ou édifice sacré, hommage collectif à tous les peuples de la Gaule, érigé en l'honneur de César Auguste. Il est placé en avant de la ville, au confluent même des deux fleuves, et se compose d'un hôtel considérable où sont inscrits le nom de 60 peuples, d'un même nombre de statues, dont chacune représente un de ces peuples afin d'un grand sanctuaire.
Merci. monsieur le géographe Strabon. Croix-Roussien, Croix-Roussienne, vous écoutez le feuilleton véridique et sociétaire des pentes de la Croix-Rousse sur Pluriel, fréquence modulée et sur Radio Canu. Programme diffusé en direct de l'amphithéâtre des Croix-Gaules.
Pas griller sur la chaise de fer, bougie au feu.
Écoutez à présent en léger différé ce petit message.
À Lyon est fondée en 43 avant Jésus-Christ par le premier Lyonnais, Lucius Minacius Plancus, général républicain, lieutenant de César, qui va être chargé à un moment donné par le Sénat de Rome de fonder cette colonie parce qu'il faut se débarrasser des troupes d'élite de Jules César. Et vous avez ces militaires dont on vient d'assassiner le chef, qui ne savent pas quel va être leur destin et qui font peser sur Rome et sur le Sénat une menace terrible de pronunciamento militaire. Et on ne sait pas quoi en faire. Et la bonne idée, c'est de les renvoyer de l'autre côté des Alpes. On les lotit, on va leur donner des terres, on va leur donner des parcelles d'espace urbain. Et puis, ils vont rester là et ils ne feront plus peser cette menace de coup d'État.
Soyez les bienvenus de la Tamatica. Du vin, de la Posca.
Deux verres de vin au miel. C'est la fête aujourd'hui.
La fête ne fait que commencer. Qu'est-ce que ce sera cette nuit si Dieu Bacchus a réveillé Ariane de son sommeil de bonbon?
Que Jupiter, très bon et très grand, vous donne bien du plaisir.
Alors Jean-Claude, là on est devant votre boutique, hein, donc votre brocante. Mmh. Achète vieux meubles, bibelots, fauteuils, tableaux. Donc vous êtes confortablement assis sur cette banquette.
Mais avant c'était comme ça, tout le monde sortait leur chaise. Bah, les commerçants là, ils sortaient leur chaise devant et puis c'était folklorique. Hein.
Alors nous on aimerait bien faire une petite visite dans votre boutique et que vous nous montriez quelques objets comme ça un petit peu emblématiques. Parce qu'on a un appareil justement qui s'appelle l'archéophone.
Vous avez des boules de billard, ça c'est des boules de billard en ivoire.
Quelle époque?
Ça c'est 1920, 1930. Que c'est, on...
passées de 59 secondes et Boulimix rentre à ce moment-là, c'est assez magique. Parfait, petite désannonce rapide. Alors voilà, on avait commencé avec Policy of Three, ensuite Montréal Sound Matter, un collectif, ça date de 2006, et puis Arte Radio, les appelés de la guerre d'Algérie, on écoutait le Requiem de Mozart, enfin un petit bout, et puis Peter Zinoviev, Electronic Calendar, ensuite des archives, du frigo, This Hit, Philip Jack, extrait d'une pièce de théâtre, la compagnie Haut et Court, des boucles, du classique, des vinyles bidouillés, des sons de grillon et l'intro de Doomex Async. Et puis pour la fin de l'émission, on a eu droit à Andrea Belfi, un petit bout de l'album qui s'appelle Auré. Et puis couplé avec le feuilleton véridique et sociétaire des pentes de la Croix-Rousse. Et puis il y avait un peu de musique électronique perse des années 1970. Je vous laisse donc avec Boulimix et je vous dis à dans 15 jours. Salut!